Une semaine dans leur vie, feuilleton, reportage pour raconter la société autrement et découvrir des personnalités qui donnent un sens à l'actualité. Dans ce numéro, rencontre avec un millionnaire qui veut mettre une partie de sa fortune au service des migrants, entre autres causes. Il s'appelle Olivier Legrain. Bonjour Antoine Gignot.
Bonjour.
Antoine, c'est vous qui l'avez rencontré. Un premier mot pour le présenter avant de faire plus ample connaissance avec lui. Ce mot, c'est contradiction.
Contradiction, oui, c'est le mot qu'il utilise pour parler de sa fortune et de son besoin de redistribuer avec ce fonds baptisé Riace, dans lequel il a injecté 3 millions d'euros pour aider à accueillir les réfugiés un peu partout en France. Contradiction aussi lorsqu'il parle du fossé entre son passé de militant communiste encarté au PC pendant 9 ans et puis sa carrière de cadre, puis de directeur, puis de PDG dans de grands groupes industriels français et sa carrière enfin de psychanalyste. Contradiction pour évoquer ses idéaux de gauche et sa maison perdue dans les arbres à Neuilly. C'est là, dans un salon qui ressemble un peu à une maison de campagne, avec des livres, avec des tableaux, avec des bibelots un peu partout. C'est là que je l'ai rencontré.
Une glycine au-dessus de la porte. Et une petite porte de pavillon. Bonjour.
Bonjour,
madame. Bravo.
Bienvenue.
Je vous sers pas la main, du coup,
bon,
mais...
Bon,
je veux bien un café avec plaisir, merci beaucoup. Normal,
le même que vous.
On va expliquer juste où on est. On est chez vous, dans l'arrière de la maison qui donne sur le jardin. On aperçoit même des oranges par la fenêtre. C'est un peu la campagne au milieu de la ville.
C'est exact, c'est beaucoup de luxe. C'est une de mes contradictions, mais je l'assume. Je m'étais toujours dit que quand j'arrêterais ma carrière d'industriel, je voulais quelque part rendre à la société une partie de l'argent que j'avais gagné. C'était comme ça que je concevais dans ma tête. Probablement très choqué par ce qui se passe par rapport aux réfugiés depuis longtemps, mais ça restait assez intellectuel. J'ai une fille qui est avocate à CIMAD. J'ai un fils qui est architecte, qui a fait son mémoire... réfugiés et architecture. Et donc, petit à petit, je pense que j'ai senti d'un certain membre de ma famille que une partie de mon patrimoine devait aller vers les réfugiés. Et c'est ce qui s'est construit petit à petit. Le combat du maire de Riace m'a beaucoup touché.
Riace en Italie.
Riace en Italie, en Calabre. J'ai vu le film de Wim Wenders un jour à l'école normale où le maire de Riace était là. Il était très, très émouvant. Et Wim Wenders aussi. Et petit à petit, je me suis dit, bon ben voilà, on y va.
Ce fonds d'aide aux migrants, vous en avez parlé dans la presse le mois dernier. Vous avez tenté de rallier des mécènes, des donateurs. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Est-ce que vous avez reçu des messages, des courriers? Est-ce que vous avez reçu des dons?
Beaucoup de messages de soutien, beaucoup de soutien moral, beaucoup d'admiration, très peu d'argent. Il y a plein de lettres d'encouragement, il y a quelques petits dons. Alors les petits dons, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut les gérer. Et beaucoup de gens qui n'ont pas obligatoirement compris et qui ont plutôt compris qu'il y avait de l'argent disponible et donc leur projet qui n'était pas financé pourrait être financé. Énormément de demandes de gens parce qu'ils ont vu le montant qui était marqué dans le journal. Et effectivement, eux, ils raisonnent plus. Ça va maintenant qu'il y a quelqu'un qui est prêt à mettre de l'argent pour nous aider, on fonce. Donc il y a beaucoup, beaucoup de demandes. Voilà, il y a des projets de maisons de l'hospitalité, il y a des discussions qui vont commencer avec Grenoble, il y a des choses à regarder à Briançon, il y a des choses dans la banlieue parisienne pour les mineurs isolés. Là, globalement, avec tous les projets qu'on a, on est parti pour 4 ans, c'est sûr. Dès qu'il y a des mesures d'urgence, on essaye de les regarder et de voir si on peut y subvenir. Riace a mis une partie des tentes Place de la République. Sans vouloir faire de la politique, parce qu'on n'est pas là pour faire de la politique, parce que sinon, alors là... on passerait de l'autre côté de la force, comme je dis. Il y a des choses qui me choquent. Les règles qui sont édictées par mon pays ou par l'Europe sont des règles. Mais par contre, à l'intérieur de ces règles, on ne peut pas, aujourd'hui, traiter les gens réfugiés qui ont fait des milliers de kilomètres pour arriver là, comme on les traite aujourd'hui en France, en tant que citoyen de mon pays, les gens soient traités comme ils ont été traités Place de la République... ou que la sixième puissance du monde laisse autant de gens sous le périphérique pendant autant de temps, ça pour moi c'est inacceptable. J'étais très favorable et j'ai mis toute mon énergie pour que l'Aquarius soit accueilli en France. Je peux comprendre
L'Aquarius, le bateau à bord duquel voyageaient les migrants.
Voilà. Mais à la fin des fins, ce qui est important, c'est, voilà, il a été décidé que non, qu'il y avait les règles européennes qui devaient l'amener ailleurs, mais je considérais qu'il fallait que je me batte avec toutes les armes que j'avais pour ça. Et à un moment donné, il y a une cause qui me touche, le Louise Michel, pareil, autre bateau, me touchait. Voilà, quand il y a un combat, je le mène jusqu'au bout. Jusqu'au bout.
Alors Antoine, pour comprendre ce qu'il y a derrière cet engagement, derrière ce combat dont parle Olivier Legrain, il faut remonter 50 ans en arrière.
52 ans même très précisément, au mois de mai 1968.
D'accord.
Il est lycéen à l'époque, programmé pour faire une grande école. Olivier Legrain, c'est un arrière-petit-fils de normalien, petit-fils de polytechnicien, fils de polytechnicien. Et là, avec mai 68, tout bascule d'un seul coup dans la Révolution. En 68, vous avez 15 ans.
15 ans et demi.
Vous êtes exactement dans la génération qui est marquée par tout ce mouvement-là. À l'époque, vous êtes élève.
Au lycée Buffon à Paris, dans le 15e arrondissement. Et en fait, l'histoire, le lycée Buffon est parti. Et moi, j'ai suivi, hein, j'avais 15 ans et demi. J'ai vu les gens sortir et partir vers Louis le Grand et Henri IV et l'attaque du commissariat de police du Panthéon. Il y avait un surveillant, on était encore en culotte courte, qui a été à moitié défenestré devant mes yeux. C'est vrai qu'on rentrait en permanence avec des coups de baguette. Ça semble inimaginable aujourd'hui. Il y avait un homme extraordinaire qui s'appelait Maurice Clavel, qui était brillantissime, qui avait eu des prix de philosophie avec ses élèves au concours général, et qui tenait des discours révolutionnaires dans la cour. Et ça, je m'en souviens comme si c'était hier, alors que c'était il y a 50 ans. Clavel, il avait des discours complètement enflammés. C'était un mélange de gaullistes et de croyants et de révolutionnaires. Et je pense que ça, un choc d'une telle violence, ça vous fabrique à vie. Alors bon, moi, je crois que je reste profondément révolté. Profondément révolté par l'injustice dans mon pays et dans le monde. Alors maintenant, j'y participe plus par mon argent que par mes combats. Mais bon, on ne peut pas tout faire. Donc pour revenir à votre question, oui, mai 68 m'a marqué à vie. À vie.
Dans la foulée, la façon de voir le monde a changé ?
J'avais pas de façon de voir le monde. Je me souviens que juste avant, j'avais rempli un petit papier, j'avais écrit « gaulliste de droite », qui était, je pense, la pensée de mon père. Je me suis mis à lire petit à petit. J'étais très marqué par le programme commun. Passionné par l'économie aussi.
Vous êtes resté au Parti communiste pendant 9 ans ?
Oui, je suis resté d'une manière très secrète, très anonyme. Peu de gens le savent. Alors, je suis un bourgeois. Et donc, je pense que j'ai été récupéré par mon milieu. C'est vers 78, c'est ce qu'on appelle l'affaire Solzhenitsyn qui m'a, je dirais, ouvert les yeux. Il y en a d'autres qui avaient les yeux qui avaient été ouverts bien avant.
Ça fait plusieurs fois que je vous entends prononcer ce mot de bourgeois. Vous vous excusez presque de dire « c'est vrai, j'ai bien réussi, j'ai une belle maison ». C'est aussi la raison pour laquelle vous vous dites à un moment donné « il faut que je redistribue ».
Oui, certainement. Alors il y a des gens qui ont dit que l'argent me brûlait les doigts. Probablement un peu aussi, oui. Enfin, quand je vois un ouvrier qui ne gagne pas sa vie ou quand je vois quelqu'un dans la rue, ça me fait quelque chose, quoi. Mais au plus profond de mon être. Après, un journaliste très connu aussi me disait « tu ne peux pas porter toute la misère du monde ». J'ai un côté que probablement que je cherche à porter toute la misère du monde.
Alors, mai 68, d'accord. Comment passe-t-on, du coup, Antoine Gignot, d'un engagement communiste révolutionnaire à patron multimillionnaire ?
Essentiellement grâce à une carrière d'industriel. D'abord chez Rhône-Poulenc, puis chez Lafarge. Carrière qui permet, petit à petit, à Olivier Legrain de lancer des LBO, Leverage Buyout. Ça consiste à racheter sa société, son propre département, chez Lafarge en l'occurrence, grâce à des fonds d'investissement en plusieurs fois et avec plusieurs centaines de salariés embarqués dans l'aventure. Tout cela pour arriver à la fin à la tête d'un empire industriel.
Une passion très très forte pour l'économie. L'action, elle passe aussi par l'économie. Aujourd'hui, je pense que dans le monde dans lequel on vit, l'économie est très très mal expliquée aux gens. Il y a des choses très simples en économie et je trouve que les cours d'économie sont mal faits, que les journaux expliquent mal l'économie, que très souvent je trouve que les discours qui sont faits par le plus haut sommet de l'État sont quelquefois très galvanisants pour l'élite. Mais en bas, qu'est-ce que pensent les gens du bas ?
À l'époque où vous êtes PDG de Materis, vous avez un groupe qui compte quasiment 10 000 personnes ?
Un peu plus, selon les moments, entre 10 et 13 000, selon les actions qui sont passées, oui.
Et des lieux, des sites, un peu partout dans le monde. Quand on a dirigé un grand groupe industriel, est-ce qu'on peut imaginer une conception de l'économie avec les codes et avec les clés dont on dispose aujourd'hui, qui soit autre chose que le discours dominant et la théorie du ruissellement et ce genre de choses?
Oui, bien sûr. Je pense qu'il y a plein d'autres manières de diriger mon pays. Oui. Après, il faut que les égos s'effacent. Après, il y a les lobbies. Après, il y a le pouvoir de l'argent. Oui, je pense qu'il peut y avoir. Mais c'est très compliqué parce que je pense que le capitalisme peut être bien mieux régulé que ce qu'il est aujourd'hui. Maintenant, est-ce que c'est possible ? Oui, en France, c'est possible. On peut pas oublier la dimension européenne et la dimension mondiale. Mais je pense qu'il y a de la place. C'est vrai que je suis pas un fanatique de l'économie libérale. Je suis pas non plus pour l'économie planifiée. Moi, je suis pour une économie un peu, un humanisme.
Quand vous parlez de ces questions-là avec vos anciens amis, que ce soit vos amis d'école d'ingénieurs, que ce soit les patrons que vous avez croisés plus tard, quel écho vous avez ?
Oh là là ! Je vais raconter une petite anecdote. Dans une assemblée de patrons, où il y avait des patrons très connus, en 2007, j'ai demandé qui est-ce qui allait voter pour Sarkozy, Nicolas Sarkozy ou Ségolène Royal. On était 22 dans cette réunion, et j'étais le seul à voter pour Ségolène Royal. Mais ce qui m'a complètement choqué, c'est que ces patrons, qui avaient des âges tout à fait jeunes, on est en 2007, donc il y a 13 ans, ils avaient à peu près, ils avaient peut-être même 5 ans de moins que moi, ils considéraient que Ségolène Royal, c'était quasiment l'entrée des chars russes à Paris, quoi. Donc, qui est-ce qui disait que le patronat français est le plus con du monde, je sais plus. Mais il y a un truc, quoi. Oui, je me sens très isolé dans mon combat. Ou dans mes idées. Mais c'est une des difficultés de vie en vieillissant. Parce que je ne me sens pas proche des gens qui ont peut-être des idées politiques comme moi, mais qui n'ont pas le même âge ou le même... Donc, ils me prennent plus pour un vieux patriarche. Tous ceux qui ont côtoyé ma vie des 20 dernières années sont beaucoup plus libéraux que moi. Non, je me sens isolé, oui. Très isolé. Peut-être que mon métier de thérapeute me soigne aussi. Voilà.
Parce que la thérapie, c'est aujourd'hui son premier métier à Olivier Legrain. Antoine, en 2015, lorsque Materis, sa société, est revendue, eh bien, il a décidé d'ouvrir son cabinet.
Après avoir passé, plusieurs années lui-même en psychanalyse, après s'être formé aux techniques freudiennes, il accueille aujourd'hui des patients. Ça se passe chez lui, dans un petit salon de sa maison.
Alors là, vous êtes dans mon salon de thérapeute, qui est très spécial, parce qu'il y a des photos de mes enfants un peu partout, ce qui surprend un certain nombre de gens. Il y a une partie des livres, alors il y en a partout ailleurs. Si on faisait le tour de la maison, oui, c'est effrayant. Et voilà, mais je me sens à l'aise, là. Je me sens à l'aise. Quand j'ai pas mes crises de claustrophobie, qui m'arrivent quand même de temps en temps, où je vais marcher dans l'allée par laquelle vous êtes arrivé, c'est là. Donc vous avez, il y a deux fauteuils, une chaise. Aujourd'hui, je vois à peu près 25 personnes par semaine. Il n'y en a pas beaucoup qui se mettent sur cette chaise. Il y a beaucoup de vis-à-vis, en fait. C'est plus du coaching ou de la psychothérapie. Il y en a qui disent que je suis leur directeur de conscience. Bon, ça, c'était des prêtres avant, mais voilà. Moi, je suis très laïque là-dessus.
Ça, c'est la reconversion après 2015. Vous êtes à l'époque PDG de Materis, branche de Lafarge. Vous partez avec une idée ?
Ah oui, elle est là depuis très, 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 très longtemps. J'ai failli le faire en 2006. Mais je voulais devenir analyste, probablement poussé par ma psychanalyste qui m'a dit « Vous avez la chance unique d'avoir dirigé des groupes industriels et d'avoir une formation de psychanalyste freudien, créez votre métier. » Donc je suis psychanalyste, coach, psychothérapeute, voilà.
Aujourd'hui, qui vient vous voir ?
Comme les gens payent ce qu'ils veulent, ce qui énerve un certain nombre de mes collègues, alors c'est pas vraiment des collègues, mais enfin c'est un peu des collègues quand même, puisqu'ils m'envoient des patients, tout le monde. On peut pas dire qu'il y a des ouvriers, hein, mais il y a de la classe moyenne, il y a des jeunes, beaucoup de jeunes, beaucoup, beaucoup de jeunes. Beaucoup de gens qui ont souffert énormément du confinement et du déconfinement, savent chercher un sens. des femmes, des hommes, des jeunes, qui ont entre 17 et 30 ans.
On a beaucoup parlé pendant le confinement du monde d'après, de la crise de sens, de la nécessité de changer de vie. Vous, vous l'observez au jour le jour dans les gens qui viennent vous voir ?
J'observe surtout des gens très perturbés. Très très perturbés par ce qui leur arrive. Soit ils sont dans des endroits où il est trop petit, soit ils trouvent que les inégalités sont trop grandes, soit leur couple est devenu très compliqué, soit ils sont avec des enfants qui se révoltent, soit les enfants qui viennent ici se révoltent contre leurs parents. Je pense qu'on, enfin, je dirais pas qu'on sous-estime, puisqu'il y a beaucoup de psychiatres, psychanalystes qui s'expriment en ce moment là-dessus, il y a une violence très forte dans l'inconscient des gens, et qui est en train de devenir conscient.
Quand on vous parle de changement de vie, évidemment, ça fait écho chez vous. Vous avez eu plusieurs vies.
Oui, j'ai eu plusieurs vies. Moi, je dirais que j'ai trois vies. Une vie tournée un peu vers la politique et les études, puis vers l'industrie et la finance, mais surtout l'industrie. Moi, je me revendique comme un industriel. Et puis maintenant, vers la thérapie. C'est une troisième partie de ma vie. Peut-être que je me sens plus libre. Libre parce que j'ai suffisamment de moyens financiers. Et libre parce que je suis là, libre. Voilà. Je pense que cette interview, quand j'étais président de Materis, j'aurais pas pu dire ce que je suis en train de dire là. Mais pas par rapport à mes actionnaires. Par rapport à moi-même. Là, voilà. Et je suis un thérapeute, je pense, très spécial. C'est-à-dire que je suis pas du tout un analyste classique freudien. Et pourtant, j'ai une formation freudienne. Qui analyse à l'infini. Moi, j'ai besoin d'analyser un peu avec mes patients, mais j'ai surtout besoin qu'ils soient le plus heureux possible dans leur vie, et donc d'agir, de modifier par l'action les situations complexes dans lesquelles ils vivent. J'aime bien commander, j'aime bien diriger, j'aime les gens, j'aime bien que les gens m'aiment, et j'ai besoin de ça pour moi-même.
Alors, on a parlé de mai 68, on a parlé de l'action d'Olivier Legrain pour les migrants, la psychanalyse, et puis il y a un autre projet, c'est la création d'une maison des médias libres.
Un endroit qui pourrait, c'est ce qu'il dit, accueillir des organes de presse fragiles économiquement, qui pourrait aussi abriter à l'occasion des lanceurs d'alerte ou organiser des conférences. Le projet est en discussion en ce moment à la mairie de Paris.
La liberté de la presse a été mon premier combat et on va peut-être arriver à ouvrir une maison des médias libres à Paris. Ça fait 5 ans que ça dure, mais je pense que c'est pas impossible que ça se fasse. Après, il faut trouver un modèle économique qui convienne aux médias. Si on va au bout, on part sur un bail de 50 ans avec la ville de Paris. Donc ça dépasse totalement ma vie. Si on va au bout du projet, il y aura 5 500 m² à peu près. Il peut se passer beaucoup de choses. Il faut que ça soit ouvert au public. Je me rends compte aujourd'hui que les médias se sont pas assez regroupés à gauche. Il y a plein de petits médias de gauche. Ils sont dans un équilibre économique hyper précaire. Pour moi, le fait que la presse en France soit détenue par très peu de gens ayant du pouvoir économique, ça m'a toujours choqué. Moi, je considère que la liberté de la presse, c'est un vrai contre-pouvoir. Julian Assange ou Edgar Snowden, c'est des personnalités qui m'ont beaucoup marqué ces dernières années. Et j'aurais aimé qu'ils puissent être hébergés en France.
Quel regard vous avez, vous, aujourd'hui, sur la façon dont on raconte le monde ?
C'est mélangé, et je pense que c'est toutes mes contradictions. J'en passe souvent ce terme, mais c'est vrai que c'est comme ça que je ressens, ou c'est l'image qu'on me renvoie, peut-être aussi. Moi, je lis le Monde, le journal Le Monde, depuis que je suis très très jeune. Et donc, les gens qui disent que le Monde était à gauche, que maintenant le Monde est à droite, ou que le Monde... Je trouve intéressant, il y a beaucoup d'articles que je trouve extrêmement intéressants. Je lis aussi les Échos, et pourtant c'est un journal détenu par ce que beaucoup de gens appellent un oligarque, mais il y a des articles très intéressants, donc voilà, il faut construire. Alors c'est très dur pour les médias de construire, mais je trouve que très souvent, les journalistes ne proposent pas vraiment ne font pas des analyses qui sont opérationnelles derrière. Et moi, qui étais un industriel dans toute ma vie, à un moment donné, j'ai besoin de discuter et d'agir. Voilà. Et je trouve que très souvent, on critique, souvent à juste titre, mais on n'agit pas.
Vous avez une sensibilité de gauche, elle s'exprime comment aujourd'hui ? Et est-ce qu'il y a un éventail qui vous correspond aujourd'hui ?
Non. Voilà, je vais raconter une anecdote. En 1974, j'étais à Saint-Étienne et on attendait François Mitterrand. Et François Mitterrand arrive avec 2h30 de retard, ce qui était... Voilà. Et il monte, je me souviens, il était en jean avec une chemise blanche. On l'attendait depuis 2 heures, il y avait toute la gauche. Et c'était la Marseillaise, l'Internationale, la Marseillaise, comme dans un stade de foot à la limite. Et Mitterrand s'est tourné vers les gens en folie. Et il leur a dit « Peuple de gauche, te salue ». C'était une formule. Mais je vois pas... Mélenchon pourrait peut-être faire ça aujourd'hui, mais il ne représente pas ce que Mitterrand représentait pour ma génération. Après, il s'est passé beaucoup de choses. On va pas revenir sur 81, 83, c'est pas très important. Mais c'est ça, je pense que une élection présidentielle, c'est une rencontre entre le peuple, dans toute son acceptabilité, et un homme et une femme. Mais c'est une rencontre où, à la fin des fins, il faut gagner. Et c'est ce que Macron a fait d'une manière très astucieuse en 2017. Macron a beaucoup de charme. Quelqu'un qui a décidé, qui a eu une vision pour l'Europe. Je suis moins convaincu qu'il ait une vision pour mon pays. Maintenant, on ne peut pas dire aujourd'hui que c'est un homme de gauche. Maintenant, qui est un homme de gauche? Qui peut dire aujourd'hui je peux représenter toutes les sensibilités de la gauche et des écologies? Je ne vois pas. Aujourd'hui, je ne vois pas.
Olivier Legrain, un millionnaire au service des autres, c'était Une semaine dans leur vie. Une semaine dans leur vie est un podcast de la rédaction de France Inter.